Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée aux États-Unis. Un an nous sépare de l'élection de novembre 2016 qui mettra un terme au mandat de Barack Obama, la constitution limitant les présidences à deux élections consécutives. État des lieux de la campagne électorale, le point sur les grands rendez-vous qui nous séparent de l'élection et les attentes des derniers mois de la présence à la Maison-Blanche du premier président noir de l'histoire des États-Unis. Nos invités, Dick Howard, philosophe et politologue, enseignant à la Stony Brook University de New York, auteur de nombreux ouvrages, dont « Aux origines de la pensée politique américaine » paru aux éditions Hachette et apparaître prochainement « Politique et anti-politique depuis le 11 septembre » apparaître aux éditions Macmillan. Dick Howard, qui est également chroniqueur pour la revue Esprit. Bonjour.
Bonjour.
Et Karim-Émile Bitard, professeur associé de relations internationales à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, directeur de recherche à l'IRIS, co-directeur avec Clotilde Fouché chez Cours de l'ouvrage collectif Le Cèdre et le Chêne, De Gaulle et le Liban, aux éditions Goetner. Bonjour.
Bonjour.
Dans un an, donc, la présidentielle américaine, elle se tiendra le 8 novembre 2016, un mardi comme à l'accoutumée. Selon la Constitution, l'élection a lieu le lendemain du premier lundi du mois de novembre. La campagne s'accélère. Côté républicain, la semaine passée a été l'occasion du quatrième débat télévisé entre les candidats aux primaires, organisé par la chaîne Fox News à Milwaukee, dans le Wisconsin, état du nord des États-Unis. Un débat centré à nouveau sur l'économie, pour lequel 8 républicains avaient été conviés. Le prochain débat aura lieu le 15 décembre à Las Vegas, les primaires ne commençant que le 1er février dans l'Iowa et le 9 février dans le New Hampshire. Côté démocrate, Hillary Clinton et ses deux rivaux se sont retrouvés hier samedi dans l'Iowa pour le deuxième débat de cette campagne. Alors à l'un et à l'autre, Dick Howard, Karim-Émile Bitard, quel regard portez-vous sur la campagne telle qu'elle a démarré ? Dick Howard.
Du côté républicain, c'est inouï. Il y avait 16 candidats qui étaient considérés comme des présidentiables, ou qui se considéraient du moins comme des présidentiables, ce qui posait beaucoup de problèmes pour organiser des débats. C'est la première chose. Pourquoi 16 candidats? On peut attribuer cela à un arrêt de la Cour suprême il y a quelques années, un arrêt qui s'appelle Citizens United, qui fait en sorte que n'importe qui peut financer des candidats. Et du coup, chacun de ces 16 candidats, si peu qu'ait été leur chance de réussir, se dit, j'y vais, je vais rester parce que les finances, les arrières financières sont assurées et je peux attendre que l'autre fasse une gaffe. Et en effet, des 16 il y a un mois, il n'en reste que 12. Non,
12.
Oui, il y avait 8 dans le premier débat et 4 autres qui sont considérés tout de même comme des candidats mineurs, mais qui sont là. Donc, ça explique la persistance de ces candidats-là. Et du coup, il y a une cacophonie. Et quand on a regardé les débats jusqu'alors, c'est plutôt des spots de 30 secondes et des attaques personnelles.
Des débats où on voit les candidats se tenir derrière un pupitre, chacun aligné de façon un peu particulière. Karim-Émile Bitard.
Alors, quand on est originaire d'un pays du Moyen-Orient et qu'on regarde les débats télévisés, notamment ceux du Parti républicain, on est véritablement affligé. Parce que c'est quand même votre vie, va dépendre d'une série d'individus dont très probablement l'un d'eux pourrait devenir président de la République et qui font étalage à la fois d'une méconnaissance totale des réalités du monde contemporain et d'un militarisme assez débridé, d'une volonté d'intervenir un peu partout sans forcément connaître les enjeux, d'un certain chauvinisme aussi, ce que les Américains appellent le jingoïsme. L'idée que nous sommes une nation exceptionnelle et que les autres doivent suivre. Et en même temps, on prend un plaisir un peu masochiste à les écouter parce qu'il y a une dimension qui a été pointée, c'est la dimension divertissement. C'est vraiment de l'infotainment, de l'information et du divertissement. On a des personnages très romanesques. Si un romancier devait inventer des personnages comme Ben Carson qui ne cesse d'enjoliver son passé, d'inventer des anecdotes sur sa jeunesse étudiante, le personnage de Donald Trump avec cet égo véritablement hypertrophié, et même Carly Fiorina, qui était secrétaire père chez Hewlett-Packard jusqu'à devenir chef de l'entreprise avant de licencier en grand nombre et qui souhaite aujourd'hui se coltiner.
Et d'être licenciée elle-même.
Donc il y a un côté assez fascinant, c'est extrêmement divertissant, mais c'est aussi extrêmement inquiétant quand on pense que les pères fondateurs des États-Unis étaient des gens qui avaient une immense culture philosophique, intellectuelle. Jefferson, on l'appelait le Da Vinci américain, philosophe, architecte, grand penseur politique. Et quand on en arrive aujourd'hui à un niveau intellectuel aussi lamentable, c'est quand même triste pour les États-Unis.
Dick Warren, vous partagez cette inquiétude de Karim Émile Bitar. Et après ça, on parlera de quelques-uns des personnages côté républicain qui font la une tout de même depuis cet été. Dick Warren.
Je pense qu'il y a une phrase biblique dont il faut se souvenir. C'est que vous allez récolter ce que vous avez semé. Et si on regarde l'histoire de la présidence Obama, il est élu en 2008. Tout le monde croit que voilà, c'est la fin d'un cycle, c'est l'intégration. Les États-Unis ont atteint un sommet. Et puis, entre 2008 et 2010, une opposition se forme, se radicalise de plus en plus, et les républicains prennent la Chambre. Et ils prennent la Chambre en disant, on va tout défaire ce qu'Obama a fait. Mais il n'arrive pas à le faire. 2012, Obama est réélu. Mm-hmm. Les républicains continuent à s'opposer. 2014, ils prennent le Sénat. Et donc, ils contrôlent la législative. Mais ils n'arrivent pas non plus à défaire ce qu'Obama a fait. Mmh. Et du coup, il y a cette réaction, finalement. Et je suis moins pessimiste que Karim, en ce sens que, pour les primaires, on parle de peut-être un tiers du public, et peut-être 40% du public républicain. Donc, il y a quand même des gens sensés aux États-Unis qui existent. On en arrivera à parler des démocrates aussi. Mais il y a même des républicains qui ne sont pas si idiots que ça.
Alors, on va vous demander à qui vous pensez, Dick Warren. Est-ce que c'est Jeb Bush? Est-ce que c'est... Karim Émile Bitar parlait de Ben Carson, qui est
neurochirurgien. On met en avant Trump et Carson.
Oui.
Et demain, on va nous dire, Trump et Carson n'ont pas été sélectionnés, donc ça veut dire que la raison a triomphé. Mais le problème, c'est que les figures de l'establishment républicain se sont également très radicalisées. Et même des gens qui sont intelligents, sophistiqués, enfin moins outranciers que les autres, comme Marco Rubio, qui a pas mal de cartes dans ses mains. Aujourd'hui, si vous regardez ses positionnements idéologiques sur un certain nombre de questions, c'est aussi quelqu'un de très, très marqué. Donc ce n'est pas un retour vers la modération, le centre, la raison. Mais ce qui est très vrai, c'est que l'Amérique a beaucoup changé depuis 10 ans. Si on se projette 10 ans en arrière, nous sommes en 2005, au beau milieu de la guerre d'Irak, Abu Ghraib, Guantanamo, l'image des États-Unis est très dégradée dans le monde. Si on vous avait dit à ce moment-là que 10 ans après, vous allez être à la fin du deuxième mandat d'un noir américain dont le middle name est Barack Hussein Obama, et que vous auriez la couverture médicale universelle et que vous auriez le mariage homosexuel autorisé sur l'ensemble du territoire par la Cour suprême, tout le monde aurait pensé que c'était de la science-fiction. Personne n'aurait pu croire cela en 2005. Et pourtant, nous y sommes. Donc, il y a en effet un jeu de balancier. On passe du maximalisme au retranchement en politique extérieure, et en politique intérieure, on passe par des phases de libéralisme puis des phases de conservatisme. On avait vu ça aussi quand Clinton avait été élu. Ça avait provoqué en réaction la montée de Newt Gingrich du Contract for America en 94, et puis l'arrivée au pouvoir de George Bush. Avec Barack Obama, on a vu une redynamisation de la droite américaine qui rêve aujourd'hui d'une revanche, et on pourrait les voir revenir avec, comme les Bourbons autrefois, on disait des exilés, ils reviennent, ils n'ont rien oublié, rien appris. Et c'est peut-être ce qu'on va avoir l'année prochaine.
Rien oublié, rien appris. Alors, les côtés républicains, pour l'instant, Dick Howard, les deux meneurs de la course des primaires présidentielles républicaines. Il y a le milliardaire Donald Trump. Alors lui, il n'a pas besoin de l'argent des autres. Hein. C'est peut-être le seul qui soit à même de financer avec des fonds propres sa campagne. Il est magnat de l'immobilier aux États-Unis. Avec qui d'autre
Il y a Carson.
Carson.
Mais Trump, attention, Trump ne se finance pas. Il se fait prendre par les chaînes de radio et de télévision. C'est vous, les journalistes, qui sont les agents du trumpisme. Vous voulez nous tromper
les journalistes américains, c'est vrai que Donald Trump a des émissions...
Une vedette de la télévision, oui.
Pour ses émissions de télévision. Alors, Trump n'a jamais eu dans sa carrière un seul mandat électif. Cette question tout de même, il domine, Donald Trump, la scène politique depuis l'été dernier. Comment est-ce que vous expliquez cela? Vous avez parlé des émissions de télévision, c'est un aspect des choses, mais il y en a d'autres.
Non, c'est l'affaiblissement de l'establishment républicain. Parce que si on regarde bien la carte électorale, et il faut se souvenir que ce n'est pas le peuple américain qui élit le président, c'est le collège électoral. Si le peuple élisait, on n'aurait jamais eu George W. Bush, parce que Bush avait la majorité des votes au niveau national. C'est le collège électoral. Ceci étant, le ticket idéal pour l'establishment serait Rubio ou Bush, qui représente la Floride, Kasich. Avec comme vice-président un nom dont on ne parle pas du tout ici,
John Kasich,
qui est le gouverneur de l'Ohio. Ohio qui est aussi un État fondamental. Donc, le fait que ces deux-là ne sont pas du tout les leaders actuellement, est un signe de l'affaiblissement de cet establishment.
Alors bien sûr, tout peut changer hein, dans les campagnes américaines, surtout qu'elles sont très longues, Karim-Émile Bitard. Effectivement, Marco Rubio, jeune sénateur quadragénaire de Floride. Mais j'en reviens à ma question sur Donald Trump. Vous êtes vous-même étonné ou pas du tout de cette domination de la scène politique par le milliardaire
Pas vraiment. Je pense que Trump est un peu un symptôme de cette évolution du Parti républicain depuis une vingtaine d'années, le pouvoir grandissant de la célébrité et de l'argent. Et c'est un homme qui est quand même assez doué pour faire monter la sauce, pour provoquer des clashs à la télévision. En effet, quand il participe à un débat, le prix des publicités est multiplié par 6 ou 7. C'est assez spectaculaire. Il a menacé de ne pas aller au débat de NBC. NBC a dû céder à toutes ses conditions pour qu'il accepte d'y aller. Donc c'est quand même quelqu'un de très flamboyant, d'intéressant à suivre, véritablement un personnage romanesque. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il nous vend l'idée que justement il n'a pas besoin de l'argent des autres parce qu'il est lui-même très riche et que par conséquent, comme il est déjà riche, il ne sera pas corrompu. Et c'est un argument qui a été fallacieux. On l'a vu dans plusieurs pays du monde. Berlusconi a utilisé le même type d'argument, etc. Et puis Trump, il faut la rappeler, ce n'est pas un self-made man. Trump a hérité d'une grosse fortune de son père et un journal économique a fait une étude assez fouillée. Ils ont montré que s'il n'avait rien fait de sa vie, s'il avait pris l'argent qu'il a hérité de son père et qu'il l'avait investi dans les sociétés du S&P 500, l'équivalent du CAC 40 américain, il serait aujourd'hui plus riche qu'il ne l'est. Toutes les affaires qu'il a pu faire, tous ses casinos, etc., ne l'ont pas véritablement enrichi. Donc c'est un héritier, c'est un gosse de riche, il a fait une fac assez réputée Wharton, mais il a très vite été par la suite un peu playboy, un peu flamboyant, et c'est un homme qui a un ego hypertrophié, qui est persuadé qu'il est le meilleur, qui veut le faire savoir en permanence, et ça donne des spectacles télévisés assez fascinants. Et en effet, s'il est en tête aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un rejet massif de l'establishment, lui-même et Carson et Fiorina n'ont jamais été ni sénateurs, ni gouverneurs, etc. Et les autres sont encore loin derrière. Même si Jeb Bush devait tripler son score aujourd'hui, ou Marco Rubio doubler son score, il ne parviendrait pas encore à les rejoindre. Il y a également un personnage qui pourrait percer et récupérer une partie de l'électorat de Donald Trump, c'est Ted Cruz, qui a été qualifié par le New Yorker d'absolutiste, qui a une vision un peu religieuse, mais qui maîtrise bien ses dossiers, qui est un travailleur, et qui est le seul à ne pas avoir antagonisé Donald Trump. Ils maintiennent des relations relativement cordiales, donc il pourrait, si Trump finit par se retirer, il pourrait soutenir Ted Cruz, qui, comme Marco Rubio, espère incarner une alternative, un changement générationnel face à Hillary Clinton, parce qu'il y a le côté hispanique qui est important et le côté jeune qui est aussi important, parce que Hillary Clinton va se voir accusée d'être une vieille routière de la vie politique américaine, d'avoir des rapports ambigus avec la vérité, avec l'argent, etc. Donc les républicains ont besoin en effet des états bascules que sont la Floride et l'Ohio. Ils ont aussi besoin du vote hispanique et de prétendre incarner une relève générationnelle.
Alors ils ont besoin de l'électorat hispanique. C'est vrai que pour l'emporter en novembre 2016, Dick Howard, il va falloir pour ce parti républicain qu'il élargisse sa base. Alors quand on entend un Donald Trump évoquer l'idée de la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique et de l'expulsion de l'expulsion de 11 millions de clandestins, ça ne va pas favoriser les affaires du parti républicain. Et au-delà, cette question, est-ce que finalement Donald Trump est un vrai républicain? C'est important.
C'est pas moi qui vais juger qui est un vrai républicain, mais toujours est-il que ce problème des 11 millions de sans-papiers, l'establishment républicain sait que pour gagner en 2016, ils ont besoin de faire des gestes. Mais comme il y a le système des primaires, justement, les candidats se droitisent. Marco Rubio, par exemple, qui, il y a 14 mois, avait un programme de régularisation, maintenant revient sur ce qu'il avait promis. Ted Cruz, dont Karim parle, est un cas extrêmement intéressant, mais lui, il est beaucoup plus dur que les autres, parce que les histoires sont intéressantes. Le père de Ted Cruz est cubain, qui aurait été castriste, qui se serait battu contre la dictature de Batista, avant de trouver que Castro est devenu un dictateur et donc de partir aux États-Unis. Mais Ted Cruz dit, il faut que ces gens-là fassent comme mon père, qu'ils se fassent faire des permis d'entrée. Donc, il est en faveur de l'expulsion des 11 millions. Bush Junior, c'est Bush frère.
Voilà, Bush Jeff frère, Bush, on en parle.
Qui parlait justement de cette affaire dans le débat cette semaine. Lui, il dit, soyez réaliste, on ne va pas pouvoir s'en débarrasser, ça coûterait très cher, etc. Mais très vite, il mettait de l'eau dans son vin. Le système des primaires, qui n'existait pas il y a 40 ans. Hein. Le système des primaires fausse le jeu, et ça fausse d'autant plus que la première primaire, c'est dans l'Iowa, petit État, ensuite c'est New Hampshire, encore petit État, et des États comme New York, comme la Californie, comme l'Illinois, comme la Floride, votent plus tard. Alors, le risque, c'est que les jeux soient faits très vite.
Très tôt. Dès le début de l'année. Alors, Dick Howard évoquait Jeb Bush, Karim Emil Bitar, donc le frère et le fils de deux anciens présidents des États-Unis. Alors, on a vu tout à coup le père sortir un ouvrage apparaître dans lequel l'ancien président américain critique l'influence de Dick Cheney et de Donald Rumsfeld sur son fils et successeur. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de la sortie de cet ouvrage? Est-ce que ça peut faire du bien à la candidature de Jeb Bush,
Je ne pense pas que ça puisse lui faire du bien. C'est un clan qui était toujours très soudé, la famille Bush. Et là, pour la première fois, les affaires commencent à remonter à la surface et ils se répondent l'un l'autre. Jeb était parti avec pas mal d'atouts dans son jeu et notamment, il avait levé énormément d'argent sur son nom avant même que la campagne ne débute. Et on a vu là un cas d'école qui montre que l'argent ne fait pas tout. Il y a un rejet des dynasties politiques aux États-Unis, notamment de la dynastie Bush. Et il y a aussi le fait qu'il n'a pas réussi à capter son public, qu'il manquait un peu de charisme, que dans les débats télévisés, il apparaissait quelque peu décalé, quelque peu maladroit. Trump lui a collé l'épithète de low energy, quelqu'un qui manque d'énergie. Ça l'a un peu aussi, ça l'a un peu fait mal parce que ça mettait le doigt là où ça blesse. Il a un peu survendu son bilan en Floride. L'essor économique qui était en partie dû à l'immobilier, l'inflation des biens immobiliers. Il s'est en effet entouré d'une partie des conseillers de son frère, donc une partie des néoconservateurs endurcis. Il n'a pas coupé le cordon avec ces gens-là. Il a changé plusieurs fois sa réponse à la question « Auriez-vous envahi l'Irak ?» Il a d'abord dit oui, ensuite dit non, ensuite dit peut-être, si je savais, etc. Donc il a un problème aujourd'hui de marque. La marque Bush est rejetée. C'est pour ça qu'il a pris comme slogan d'ailleurs Jeb et non pas il n'a pas mis sur le mot Bush sur ses pancartes. Donc aujourd'hui, il semble quasiment cuit. Je ne pense pas qu'il puisse revenir, quoique tout est possible aux États-Unis, mais ce sera très difficile pour lui, malgré toutes les sommes qu'il a engrangées, de revenir sur le devant de la scène, car les Américains ont envie de passer à autre chose, et notamment, je crois, ont envie d'un changement générationnel. Et au sein même de cet establishment relativement mesuré du Parti républicain, il y a des figures comme John Kasich, notamment, qui lui disputent un peu le côté un peu « j'ai de l'expérience, j'ai une vision, je ne suis pas aussi extrême que les autres ». Donc il y a un vrai problème de positionnement pour Jeb Bush et surtout Trump est déterminé à le faire battre. Donc Trump, quand bien même il se retirerait de la campagne, a toujours un pouvoir de nuisance et je ne pense pas qu'il permettra à Bush de parvenir au pouvoir. Et ça remonte, semble-t-il, à une vieille, très vieille rivalité entre Trump et la famille Bush.
Et que l'on connaît, pour terminer cette première partie d'émission, 30 secondes, cette rivalité entre la famille Trump et la famille Bush.
Comme toujours avec Trump, c'est plutôt des questions plutôt personnelles. On n'a pas suffisamment flatté son ego, etc. Et en effet, Trump, au début de sa carrière, était plutôt proche du Parti républicain. Il avait même financé Hillary.
Proche aux démocrates.
Proche des partis démocrates, pardon. Il avait même financé certaines figures démocrates. Malgré toute sa réussite financière, c'est quelqu'un qui a une blessure narcissique. Et on a le sentiment que tout ce qu'il fait, c'est pour assouvir un peu sa soif de reconnaissance, sa soif de cette blessure narcissique qui n'en finit pas de le faire souffrir. Donc je pense qu'il pourra encore couler Jeb Bush à défaut d'être élu lui-même.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Dick Howard et Karim Emil Bitar dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les États-Unis à un an de l'élection de novembre 2016, regard sur la campagne électorale, le point sur les grands rendez-vous avec nos invités. Dick Howard, philosophe et politologue, enseignant à la Stony Brook University de New York et auteur de plusieurs ouvrages, dont Aux origines de la pensée politique américaine, paru aux éditions Hachette et à paraître dans quelques mois, Politique et antipolitique depuis le 11 septembre aux éditions Macmillan. Et Karim-Émile Bitar, professeur associé de relations international à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, directeur de recherche à l'IRIS et co-directeur avec Clotilde Fouchécourt de l'ouvrage collectif Le Cèdre et le Chêne, De Gaulle et le Liban aux éditions Goetner. Dick Howard, Karim-Émile Bitar évoquait dans la première partie de l'émission du besoin de changement générationnel aux États-Unis. On a parlé côté républicain de Marco Rubio notamment, qui est un jeune sénateur de Floride d'une quarantaine d'années. Côté démocrate, trois candidats, Hillary Clinton, Bill Sanders et O'Malley, Bernie Sanders, qui est un sénateur du Vermont, 74 ans, Hillary Clinton, dont je ne donnerai pas l'âge, mais elle a tout de même... Voilà, donc côté démocrate, le changement générationnel n'est pas tout à fait au rendez-vous.
C'est effectivement un problème. Les démocrates ont été laminés en 2010, 2012, 2014 au niveau des États. Et du coup, on ne voit pas d'autres qui peuvent monter. Et donc, ils ont un problème, ce qui fait que la nomination d'Hillary me paraît quasiment certaine. D'autant plus quand on entend Bernie Sanders qui a fait une bonne chose, quand même, il a réhabilité le mot socialiste.
Qui est un mot très touchy aux États-Unis, parce que très proche des communistes, hein, finalement.
Il a bien su s'y prendre, parce qu'il disait, bah, qu'est-ce que c'est que le socialisme? Bon, c'est la bibliothèque municipale, c'est le bureau de poste. Et effectivement, soit dit entre parenthèses, si Barack Obama, en présentant sa réforme du système de financement de la santé, avait parlé justement d'assurance comme une forme de socialisme, il n'aurait pas eu ce programme mi-privé, mi-public qui a justement fait beaucoup, beaucoup de problèmes pour les démocrates dans les élections suivantes. Toujours est-il que Bernie, donc, il attire les 25% des jeunes gens qui veulent le changement, qui ne veulent pas voter de nouveau pour le clan Clinton, etc. Mais je ne vois pas du tout qu'il puisse avoir la nomination. D'autant plus, il ne serait jamais élu parce que quand vous l'entendez parler, il est peut-être sénateur de Vermont, qui est un joli état très neutre, mais en fait, il est né à Brooklyn, il n'a jamais perdu l'accent. Et comme les Américains en général n'aiment pas du tout New York, ça a coulé. Et puis le troisième larron, O'Malley, était gouverneur de Maryland. Avant ça, il était maire de Baltimore, et comme les auditeurs le savent sans doute, c'est à Baltimore cet été qu'il y a eu encore des émeutes et problèmes avec le rapport entre police et la communauté noire. Donc je vois mal qu'on choisisse O'Malley, et si O'Malley par hasard devenait le candidat, je crois que les républicains se réjouiraient.
Alors en tout cas, Bernie Sanders, il apporte un vrai débat. Karim-Émile Bitar, il fait campagne contre Wall Street, pour la hausse du salaire minimum, l'instauration de congés payés, des universités gratuites et des hausses d'impôts. Ça permet de resituer un petit peu les choses. Donc peu de chances de l'emporter, c'est ce que Dick Howard vient de dire. Il a 74 ans, mais vous évoquiez tout à l'heure le rejet des dynasties. Alors sans que ce soit une dynastie à proprement parler, en tout cas le clan Clinton, qu'est-ce qu'il faut penser de cette candidature et des chances d'Hillary de l'emporter pour devenir peut-être première femme présidente des États-Unis, Karim-Émile Bitar?
Elle demeure très largement favorite, elle a une véritable connaissance des dossiers, c'est quelqu'un qui a une connaissance technocratique très poussée, beaucoup plus forte que celle des autres candidats démocrates ou républicains, personne ne peut lui contester cela. Elle a un problème de likability, c'est-à-dire les gens ne connectent pas, ne l'aiment pas forcément, ils la trouvent un peu froide, un peu pas suffisamment intègre, peut-être un peu trop opportuniste. Mais en tout cas, le positionnement de Bernie Sanders a obligé Hillary Clinton à se positionner un peu plus à gauche, en effet, alors qu'elle était précédemment, ou du moins son mari était plutôt accusé d'incarner une sorte de centre-gauche très ouvert sur la mondialisation financière et acceptant les inégalités. Donc ce que disait Dick Howard sur le socialisme, ça m'a fait penser à une citation du grand écrivain Steinbeck américain qui disait « Les Américains ne seront jamais socialistes parce que même quand ils sont dans la misère, ils ne se pensent pas comme pauvres, ils pensent nous sommes des millionnaires temporairement dans l'embarras. » Donc il y avait cet éternel optimisme américain qui fait qu'en effet le socialisme n'a jamais pris, on pensait qu'on allait s'en sortir. Mais aujourd'hui cet optimisme a disparu chez les républicains. Parce que quand vous voyez les débats républicains, ce qui frappe c'est justement le déclinisme, l'idée, la vision apocalyptique, tout va mal, qui rompt avec le message de Ronald Reagan par exemple, qui a réussi à gagner les élections sur un message plutôt optimiste. Donc aujourd'hui c'est plutôt du côté démocrate qu'on voit cette vision un peu de changer le monde, etc. Bernie Sanders, il nous dit pourquoi pas le modèle danois, ce qui a fait ricaner Hillary Clinton, qui lui a répondu j'aime beaucoup le Danemark, mais nous ne sommes pas le Danemark, nous sommes une énorme nation, etc. Donc nous ne pouvons pas calquer le modèle danois. Mais en effet, Bernie Sanders a permis de donner au cœur de cette campagne une nouvelle philosophie politique américaine à laquelle ils n'étaient pas habitués, mais à laquelle ils sont assez étonnamment réceptifs. C'est une nation qui est assez soucieuse aussi de sa cohésion sociale, qui voit les inégalités se creuser, un retour à l'âge des barons voleurs, où vous aviez quelques grandes puissances financières qui dictaient la politique. Et quand on a vu tous les candidats républicains aller faire le pèlerinage à Las Vegas, à l'hôtel Venetian de Sheldon Adelson, ce grand milliardaire qui fait et défait les candidats, on s'est rendu compte qu'en fait, on était dans un système encore assez clanique où il fallait aller prêter allégeance à un homme tout puissant qui va décider de donner 30, 40, 50 millions à tel ou tel candidat. Et aujourd'hui, il semblerait que Sheldon Adelson ait jeté son dévolu, son soutien à Marco Rubio, ce qui augmente considérablement les chances de ce dernier. Donc c'est un peu contre tout cela que Bernie Sanders s'inscrit. Il prend des petites donations des électeurs lambda plutôt que de s'appuyer sur les grandes corporations. Il promet de réintégrer la justice sociale. Cela dit, il manque peut-être de ce charisme qui lui permet de connecter avec l'Américain du Midwest, l'Américain lambda. Il reste assez élitiste. Il est aussi accusé d'avoir des positions sur le conflit israélo-palestinien qui sont plutôt favorables à Israël. Donc il perd aussi une base un peu radicale dans son parti. Il est quelqu'un qui passe plutôt bien, c'est un peu le vieil oncle qu'on a tous, qui est un peu sympa, qui raconte des blagues, etc. Mais je pense pas qu'il pourra franchir ce plafond de verre parce qu'il n'a pas le profil type d'un candidat à la présidence américaine.
Dick Owen.
Oui, à propos des Noirs, on a parlé dans la première partie du vote hispanique, c'est aussi le vote noir qui est important. Et il faut pas oublier que Bill Clinton était considéré par les Noirs comme le premier président noir. Donc, à cause de la politique qu'il poursuivait, Hillary, a priori, la troisième primaire aura lieu dans la Caroline du Sud, où à peu près 60% de l'électorat est noir. Donc, dans cette troisième primaire, même si Hillary a des problèmes dans le New Hampshire, deuxième primaire, elle va rebondir très vite. Malgré le fait que Bernie Sanders, quand il était étudiant, militait dans les années 60 pour la cause noire, pour l'intégration, il a failli se faire éjecter de son université de Chicago à cause de son soutien pour les droits civiques.
Alors, précisément, ce qui est important peut-être pour nous maintenant, c'est de jeter un regard sur les États-Unis aujourd'hui. J'ai d'abord cette première question. Dick Howard parlait de la question noire. Est-ce que la présidence Obama, donc Barack Obama, premier président noir des États-Unis, a aidé la cause noire, Karim Mulbitar?
Alors, quand il a été élu, on nous a dit que ce sera le premier président post-racial d'une Amérique post-impériale dans un monde post-américain. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, 8 ans plus tard? Les problèmes raciaux sont loin d'avoir été réglés. On assiste au contraire à une sorte de backlash, de retour de bâton, à un retour d'un racisme décomplexé dans une bonne partie des États-Unis. Mais, grosso modo, le bilan de Barack Obama, même si aujourd'hui tout le monde le critique aussi bien au Moyen-Orient qu'en Europe qu'aux États-Unis, le bilan n'est pas si dramatique que cela. Au contraire, avec le recul, on se rendra compte que l'économie américaine s'est redressée considérablement ces 8 dernières années. Le chômage s'est considérablement réduit. Les exportations sont en très forte hausse. Il y a eu un repositionnement diplomatique. On a eu quelques percées avec l'Iran, avec Cuba, avec Myanmar qui vont probablement porter leurs fruits dans quelques années. On avait 180 000 soldats postés au Moyen-Orient. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 10 000. Il y a bien sûr des taches noires sur le bilan d'Obama, notamment la crise syrienne, cette guerre sur laquelle il a été totalement impuissant. Mais grosso modo, l'Amérique retiendra que Obama n'a peut-être pas été le grand président transformationnel, mais qu'il laisse une Amérique plutôt transformée vers le mieux. Et c'est ce que les autres candidats américains démocrates sont conscients, les autres candidats démocrates, qu'Obama a une image encore favorable et ils cherchent à coller au bilan d'Obama. Même Hillary Clinton n'a pas trop pris ses distances, mais ils savent qu'Obama reste assez populaire chez la base du parti démocrate. Donc aujourd'hui, comment se positionneront-ils par rapport à son héritage? Ils vont chercher à capter cet héritage. Mais en matière de politique extérieure, on aura probablement le retour d'une politique un peu plus musclée, même si c'est Hillary Clinton qui est élue.
Dick Howard, vous partagez?
Je partage en partie, en grande partie même, cette analyse. Je partage aussi la première phrase de Karim à propos de l'Amérique post-raciale, post-impériale, etc. Je vois trois problèmes finalement. La question de Wall Street et les inégalités criantes qui font en sorte qu'il y a radicalisation aussi bien au sein du Parti démocrate que sur la droite républicaine. Deuxièmement, il y a la question du traité transpacifique
qui vient d'être signé,
mais qui ne sera jamais ratifié par un congrès tel que celui qu'on a. Et on a surtout, et c'est difficile à évaluer, mais Obama a été bloqué par ce congrès pour ce qui est des nominations, surtout juridiques. Si on me demandait quel est le premier enjeu des élections de 2016, je dirais que c'est la Cour suprême.
C'est-à-dire
la personne qui sera présidente aura au moins deux postes à pourvoir. Et ce cours actuel a été la plus pro-business, le plus anti-liberté qu'on a vu depuis très longtemps. Et pour changer ça, il faudra vraiment changer. Il y a trois juges à la Cour qui ont au-dessus de 80 ans.
Dont les mandats arrivent à échéance et qu'il va falloir renouveler.
Oui.
Karim Emil Bita?
Oui, c'est important. Il faut également ajouter dans le côté négatif du bilan d'Obama qu'il a été incapable de rompre avec certaines pratiques, la surveillance généralisée, les usages...
Guantanamo.
Les drones, etc. Donc c'est quelqu'un qui est resté dans un entre-deux, très prudent. Il a voulu restaurer le soft power de l'Amérique. Il y a réussi en partie en Europe, au Moyen-Orient, en Égypte particulièrement. L'Amérique reste assez impopulaire pour des tas de raisons. Donc c'est un bilan mitigé, mais il n'en reste pas moins que les critiques dont on l'accable aujourd'hui sont très excessives. C'est normal dans une dernière année de son mandat, mais l'histoire quand même retiendra que les grandes réformes, la réforme du système de santé, le mariage pour tous, le retour du boom économique aux États-Unis, la permanence d'une supériorité technologique, il a tissé un réseau d'alliances qui reste assez solide dans le monde. Le Parti républicain nous dresse l'image d'une Amérique en déclin isolée dans le monde. Ce n'est pas vraiment le cas. L'Amérique demeure une puissance incontestable à elle seule, elle représente 24% du PIB mondial. Ses universités demeurent les meilleures au monde. Il y a toujours ce volontarisme américain qui fait des miracles. Il est à craindre que, par contre, on ne retombe très vite dans cette hubris, dans cette ivresse du pouvoir et dans cet overstretch, l'idée qu'on peut être présent sur des tas de terrains. La plupart des candidats républicains, à l'exception de Rand Paul, sont tous interventionnistes en matière de politique extérieure, sans forcément nous expliquer comment ils vont trouver les moyens d'intervenir aussi fortement un peu partout. Même Marco Rubio a traité Vladimir Poutine de gangster, ce qui est peut-être vrai, mais si on a un cow-boy au Kremlin et demain un cow-boy à la Maison-Blanche pour lui faire face, les choses vont très vite déraper dans plusieurs parties du monde. Donc il y a un risque dans l'après-Obama que cet excès de prudence d'Obama ne laisse de nouveau la place à un excès d'exubérance et de maximalisme dont on a vu les dégâts pendant le mandat de George Bush.
Alors on a l'impression, avec un certain nombre de sujets, et je ne pense qu'aux questions de politique intérieure, on a parlé des questions raciales où on a vu finalement le président Obama ne pas faire forcément avancer la cause noire. Il y a un certain nombre de sujets qui bloquent, Dick Howard, aux États-Unis. Je pense aussi à la question des armes à feu et à d'autres sujets. Est-ce qu'on peut parler d'une société bloquée?
Je réponds en regardant les actions prises par M. Obama depuis maintenant 6 mois, 10 mois, effectivement, par exemple, pour la question de l'immigration, il prend des initiatives de son propre chef, en disant, par exemple, on ne va pas expulser les familles dont les enfants ont été nés aux États-Unis et donc qui ont la nationalité. Il prend un certain nombre de décisions parce qu'il est bloqué par le Sénat, par la Chambre. Maintenant, est-ce que c'est une société bloquée? Là, la question se pose autrement, je crois. Je pense là, effectivement, c'est une société divisée. Et si la fonction du politique est justement de faire en sorte qu'on se dispute sans s'entretuer, je crois que le politique fait face à un échec. Et finalement, je dirais que l'Amérique va vers des crises de plus en plus importantes du fait que son exécutif devient de plus en plus puissante. Ces deux chambres sont contrôlées par des partis différents. Puis, si on va au niveau des États, on a 32 États où le gouverneur et les deux chambres sont contrôlés par un seul parti. Et dans ces États, on recharcute les circonscriptions de telle façon qu'il y aura monopolisation du pouvoir. Dernière chose, avec ce collège électoral dont j'ai parlé, où justement les petits États ont un pouvoir disproportionnel, ce collège électoral ne pourra pas être changé.
Parce que la Constitution ne change pas. Karim Emile Bitar, pour conclure et rebondir sur cette question que je posais tout à l'heure sur une Amérique bloquée.
Il y a de vrais problèmes institutionnels qui n'ont pas été réglés en effet et qui se retrouvent encore aiguisés par le fait que l'Amérique reste soumise à ce qu'on appelle des culture wars, des guerres culturelles, des affrontements sur les questions de valeurs. Il y a un approfondissement du clivage droite-gauche un peu partout dans le monde, mais aux États-Unis ça reste très marqué. Quelle position sur le mariage homosexuel, sur l'avortement, sur la légalisation des drogues, etc. Donc on a cet affrontement de valeurs qui se superpose à un décalage générationnel. Les jeunes générations ont tendance à être sur des positions un peu plus souples que leurs aînés. Jeb Bush lui-même a admis qu'il avait fumé un peu d'herbe quand il était jeune. Ça ne l'a pas affecté négativement chez la base du Parti républicain. Il n'en reste pas moins que certaines questions demeurent idéologiquement très marquées. Marco Rubio a des positions sur l'avortement extrêmement sévères. Il considère que même en cas de viol, si je ne me trompe pas, il ne doit pas y avoir possibilité pour une femme de se faire avorter. Donc sur ces questions-là, les questions sociales, les questions de valeurs, il y a encore deux Amériques, comme il y a un peu partout dans le monde, un retour de ces clivages qu'on croyait dépassés et qui sont en train de revenir et qui peuvent donc rendre les problématiques institutionnelles encore plus complexes. Il y a un débat aussi vigoureux sur les traités commerciaux, sur la régulation de l'environnement, sur fond aussi d'activisme des puissances financières qui continuent de pousser vers plus de dérégulation et qui ne souhaitent pas que le gouvernement ne mette à nouveau un cadre un peu plus rigide à leurs activités sur le changement climatique, etc. On a parlé d'Adelson, il y a aussi les frères Koch qui ont une influence considérable et notamment dont la grande marotte est le déni du changement climatique.
Et la question changement climatique, très rapidement, l'opposition finalement au pipeline géant Keystone par Barack Obama et une décision à laquelle a adhéré Hillary Clinton, Dick Howard, très rapidement pour conclure.
Pour ce qui est du climat, ça ne cesse de m'étonner qu'on puisse nier des choses qui sont si évidentes. Et pourquoi est-ce qu'on nie ça? C'est finalement la clé pour comprendre l'Amérique, c'est qu'on est un pays anti-élitiste. J'ai dit que Bernie Sanders a un accent Brooklyn. L'autre accent qui nous hérisse, c'est l'accent anglais, parce que ça semble très snob. Et du coup, les scientifiques, par exemple, qui vont nous dire avec des chiffres alambiqués, etc., que les 2 degrés vont faire telle et telle et telle chose, on n'y croit pas. Tocqueville dit que l'Amérique est le premier pays cartésien parce que justement, comme on est des individualistes foncièrement, on ne croit que ce qu'on voit. Et donc, on ne croit pas à ces généralisations scientifiques.
Et le même Tocqueville disait que la grandeur de l'Amérique, ce n'est pas de ne pas commettre d'erreurs, mais c'est de finir toujours par réparer les erreurs du passé.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Dick Howard, philosophe et politologue, enseignant à la Stony Brook University de New York, auteur de « Aux origines de la pensée politique américaine » chez Hachette et apparaître prochainement « Politique et antipolitique » depuis le 11 septembre aux éditions Macmillan, et Karim Emile Bitar, professeur associé de relations internationales à l'Université l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, directeur de relations de recherche à l'IRIS et co-directeur avec Clotilde de Fouchécourt de l'ouvrage collectif Le Cèdre et le Chêne, De Gaulle et le Liban aux éditions Goetner. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique Le Débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Samedi prochain, Géopolitique sera consacrée au Mexique. À samedi prochain.